Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 12 juin 2023. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer les titres, la suspension de l'aide alimentaire punit des millions de personnes critique l'Éthiopie suite à des décisions de Washington et du PAM. RDC, 5 enfants et 2 femmes tués par une milice dans l'est du pays. L'UE propose à la Tunisie un partenariat renforcé sans mentionner de conditions. L'Ukraine annonce la reconquête de 3 villages à la suite d'actions de contre-offensive. Les proches de l'ex-président Donald Trump esquissent sa défense et dénoncent des poursuites politiques. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le gouvernement éthiopien a critiqué les décisions des États-Unis puis du Programme alimentaire mondial de suspendre leur aide alimentaire à l'Éthiopie à cause de détournements. Jean-Roger Bion.
Cette suspension de l'aide alimentaire punit des millions de personnes, a réagi le porte-parole du gouvernement, Legesse Tulu, estimant que cette décision est politique. Selon lui, rendre uniquement le gouvernement responsable des détournements est inacceptable. Jeudi dernier, l'USAID, l'agence d'aide internationale du gouvernement américain, a annoncé la suspension de son aide alimentaire, dénonçant une opération généralisée et coordonnée de détournement de cette aide. Vendredi, le PAM a annoncé cesser temporairement l'aide alimentaire, évoquant aussi des détournements de nourriture. L'organe onusien assure toutefois que l'assistance nutritionnelle aux enfants, femmes enceintes et allaitantes, les programmes de repas scolaires et les activités de renforcement des agriculteurs et éleveurs continueraient sans interruption. En mai, l'USAID et le PAM avaient décidé de suspendre l'aide alimentaire à la région du Tigré en raison du détournement d'une partie de cette aide vendue sur le marché local. Dans un communiqué commun avec l'USAID, les autorités éthiopiennes avaient assuré qu'une enquête conjointe est en cours afin que les auteurs de ces détournements rendent des comptes. Selon OCHA, l'agence humanitaire de l'ONU, environ 20 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire.
En République démocratique du Congo, des responsables locaux ont annoncé hier que 7 civils, 5 enfants et 2 femmes ont été tués par la milice communautaire Codeco en Ituri, dans l'est du pays. Selon un agent local de la Croix-Rouge, les tueries ont eu lieu lors d'une attaque des miliciens samedi soir contre une position de l'armée dans la région de Dukote, territoire de Mahagi. La Codeco, coopérative pour le développement du Congo, est une milice de plusieurs milliers d'hommes qui affirme protéger la tribu Lendu face à une tribu rivale, les Hema, ainsi que l'armée de la RDC. L'Union européenne a proposé hier à la Tunisie un partenariat renforcé assorti de promesses d'aide financière. Elle n'a pas mentionné les conditions politiques à son soutien à ce pays étranglé par les dettes et incontournable sur le dossier migratoire. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Il est de notre intérêt commun de renforcer notre relation et d'investir dans la stabilité et la prospérité de la Tunisie, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, venue à Tunis en compagnie des premiers ministres d'Italie, Giorgia Meloni, et des Pays-Bas, Mark Rutte. Après une entrevue avec le président Kais Saied, Mme von der Leyen a évoqué une aide à long terme de 900 millions d'euros et une autre de 150 millions d'euros à injecter dès maintenant dans le budget. Sur son site, la Commission a précisé qu'il s'agirait d'un nouveau prêt européen qui ferait suite à l'octroi par le FMI d'un crédit en cours de négociation de 2 milliards de dollars. La Tunisie est étranglée financièrement par une dette de 80% de son PIB, ce qui entraîne des pénuries récurrentes de denrées, comme la farine et le riz achetés par l'État. Elle négocie depuis des mois avec le FMI, mais les discussions achoppent sur le refus du président Saïd de réformes comme une restructuration de la centaine d'entreprises publiques très endettées et la levée de certaines subventions étatiques sur les produits de base.
De violents affrontements et des tirs d'artillerie ont été entendus dimanche à Khartoum, la capitale du Soudan, où des habitants ont signalé des frappes aériennes peu après l'expiration d'un énième cessez-le-feu. Des témoins ont rapporté que les combats entre l'armée et le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide n'avaient pas été aussi intenses depuis des semaines. Le conflit entre l'armée régulière, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo ont éclaté le 15 avril à Khartoum et dans le reste du pays, faisant au moins 420 morts et 3700 blessés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des notes personnelles ou des documents déclassifiés des proches de Donald Trump ont assuré dimanche que l'ex-président américain était dans son droit en emportant des paquets d'archives lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche, esquissant sa stratégie de défense tout en dénonçant des poursuites dites politiques. L'équipe de campagne du Républicain qui veut reconquérir la Maison-Blanche en 2024 a annoncé que le favori de la primaire de son parti s'exprimerait mardi soir dans le New Jersey après sa première comparution devant le tribunal fédéral de Miami en Floride dans un dossier qui le voit inculpé de 37 chefs d'accusation, dont rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, entrave à la justice et faux témoignages. Il plaidera non coupable selon une avocate de M. Trump. L'Ukraine a annoncé la reconquête hier de 3 villages dans la région de Donetsk. Ce sont les premiers gains territoriaux obtenus suite à des actions de contre-offensive évoquées par le président Volodymyr Zelensky. Le point avec Mohamed Humfa.
Les forces terrestres ukrainiennes affirment avoir libéré la localité de Blagodatne sur le front de l'Est, publiant une vidéo montrant des militaires avec un drapeau ukrainien dans un bâtiment détruit. Elles disent avoir capturé 2 soldats russes et des combattants séparatistes pro-russes. De leur côté, les gardes frontières ukrainiens ont assuré qu'un 2e village, Neskoutchne, dans la même région de Donetsk, a été reconquis. Le vice-ministre de la Défense, Ghana Maliar, a annoncé qu'une 3e localité, Makarivka, est tombée aux mains des troupes de Kiev. Il s'agit des premiers gains territoriaux annoncés depuis des mois par l'Ukraine, en dehors de quelques centaines de mètres repris en périphérie de Bakhmout. Dans le sud de l'Ukraine, les évacuations se poursuivent après la soudaine montée des eaux causée par la destruction du barrage hydroélectrique de Kakhovka, dont les 2 camps se rejettent la responsabilité. L'Agence internationale de l'énergie atomique a réitéré sa demande d'accès au site où est mesuré le niveau de l'eau du réservoir, servant à refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporizhia, à 150 km du barrage détruit et occupé par les Russes.
Un tribunal de Moscou a placé en détention provisoire Travis Leak, un Américain accusé de trafic de drogue dans un contexte de tensions vives entre la Russie et les États-Unis liées au conflit en Ukraine. Selon ce tribunal russe, Travis Leak est un ancien parachutiste et musicien américain. Il est accusé d'avoir organisé la vente de drogue à de jeunes gens, un crime passible de plusieurs années de prison. Et selon la chaîne CNN, l'Américain arrêté est un musicien et producteur de musique habitant en Russie depuis de nombreuses années. Washington a déjà accusé Moscou d'arrêter arbitrairement des Américains pour s'en servir comme monnaie d'échange et récupérer des Russes détenus aux États-Unis. L'Arabie saoudite a annoncé hier des accords d'investissement de 10 milliards de dollars au premier jour d'une conférence économique arabo-chinoise à Riyad. C'est la 2e conférence d'affaires sino-arabe qui se tient pour la première fois dans le royaume du Golfe. Abdulrahman Dia.
Entre autres accords, un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère saoudien de l'investissement et le constructeur de voitures électriques chinois Human Horizon, prévoyant la création d'une co-entreprise pour 5,6 milliards de dollars. Un autre projet de 533 millions de dollars porte sur la création d'une usine de fer en Arabie Saoudite. Aussi, un groupe saoudien et une compagnie chinoise se sont engagés à développer un projet d'exploitation minière de cuivre dans le royaume pour 500 millions de dollars. Ces accords interviennent en plein renforcement des relations commerciales et diplomatiques entre la Chine et le Moyen-Orient. Pékin a supervisé le récent rapprochement entre les deux grands rivaux de la région, l'Iran et l'Arabie Saoudite. En décembre, l'Arabie Saoudite a reçu le président chinois Xi Jinping, suscitant les critiques de Washington, son partenaire traditionnel. Cette conférence d'affaires sino-arabe, qui prend fin ce lundi, réunit plus de 3 500 décideurs et représentants d'entreprises chinoises et arabes.
En Iran, un policier a été tué dimanche par un parent d'un jeune garçon qui, selon sa famille, a été abattu par les forces de sécurité lors des manifestations antigouvernementales de l'an dernier. L'agresseur a été tué après avoir volontairement écrasé le policier avec sa voiture, selon un responsable de la police cité par une agence de presse iranienne, Tasnim. L'affaire a eu lieu en marge d'une cérémonie de commémoration pour le garçon, tué avec 6 autres personnes en novembre, durant les manifestations consécutives à la mort en détention de Mahsa Amini, la jeune femme kurde de 22 ans, arrêtée pour n'avoir pas respecté les interdits vestimentaires. La Minute Éco, Nathalie Barge.
La société nordique de financement de l'environnement NEFCO a signé un accord avec le programme de facilitation des investissements GetInvest. La mise en place de solutions d'énergie et de cuisson propre en Afrique subsaharienne. Les programmes solaires de la Banque Verte Nordique ciblent les zones rurales où l'accès à l'électricité et aux modes de cuisson propres est limité. Le Maroc accueillera la conférence Bloomberg New Economy Gateway Africa les 13 et 14 juin à Marrakech. Les dirigeants des secteurs privés et publics discuteront des potentielles solutions aux questions prioritaires au plan local et régional, telles que la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie et le dérèglement des chaînes d'approvisionnement. Et au Togo, la 11e édition de la foire Adjafi des jeunes entrepreneurs se tiendra du 24 août au 10 septembre à Agouenive sous le thème de l'innovation au service du développement agricole. Des débats, expositions et spectacles seront organisés ainsi que des salons tels que ceux du riz et des boissons locales et une table ronde sera consacrée aux petites et moyennes entreprises.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Élisée Pompatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Rien que du football ce matin avec la finale retour de la Ligue des champions de la CAF et El Ahly remonte sur son trône.
Oui, le club du Caire, auteur de nul 1-1 hier à Casablanca, a remporté son 11e titre dans la compétition. Le 3e lors des 4 dernières éditions contre le Wydad qu'ils avaient battu 2-1 à l'aller. Les Égyptiens se sont tirés cette fois du piège des Marocains qui les ont privés du trophée la saison dernière.
En revanche, en Europe, premier trophée continental pour Manchester City.
Tout à fait. Le club anglais s'offre la première Ligue des champions de son histoire en battant 1-0 les Italiens de l'Inter Milan. Il succède au palmarès le Real Madrid et réalise le triplé après son succès en championnat et en Coupe d'Angleterre.
D'une finale à une autre, celle de la Coupe du Monde des moins de 20 ans.
Et c'est l'Uruguay qui s'adjuge le trophée en Argentine aux dépens de l'Italie. En finale, les Célestes juniors ont réalisé le service minimum 1-0 pour écrire leur nom pour la première fois au palmarès. À noter que c'est Israël qui complète le podium après avoir dominé la Corée du Sud en match de classement score 3-1.
Autre épilogue, la Coupe du Mali remportée par le Stade malien.
Oui, vainqueur 1-0 en finale des 11 créateurs de Niarela. Avec ce sacre, le Stade malien sauve sa saison difficile en championnat où il occupe actuellement la 9e place. Ce qui réjouit son entraîneur, Siaka Traoré, qui félicite ses joueurs.
Ils étaient concentrés, ils étaient sérieux. Ils ont fait moins d'erreurs en défense. On a eu quelques occasions. En première mi-temps, on ne les a pas mis. Et en deuxième mi-temps, la seule occasion qu'on a eue, on a marqué. C'est ça, le foot aussi, il faut être efficace. Parce qu'ils ont envie de jouer une compétition africaine. C'est le langage qu'on leur a dit. Ils l'ont démontré sur le terrain. On les félicite et on félicite tous les supporters qui sont venus.
À noter que ce titre permet au club de se qualifier pour la prochaine Coupe de la Confédération.
Merci, Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, mort dans un glissement de terrain à Abidjan, de 5 personnes, un couple et ses 3 enfants, après une nuit de forte pluie. Un éboulement de terrain sur 3 baraques au sous-quartier Mossikro a fait 5 morts, selon une publication sur la plateforme d'alerte Police Secours qui recense les incidents. Delphine Boyise, notre correspondante à Abidjan, nous en dit plus.
Au quartier Banco, sur le flanc du quartier Mossikro, à la lisière des communes de Yopougon et d'Atekoubé, sous une pluie battante, les riverains ne reconnaissent ne pas être en sécurité.
Le quartier, c'est dangereux. Mais comme on n'a pas les moyens, on est obligé de faire avec.
Quand il pleut, on n'est pas en sécurité parce qu'on en bas des collines.
De fortes pluies ont touché Abidjan dans la nuit de samedi à dimanche. 185 mm de précipitations ont été enregistrés dans la commune de Yopougon, selon l'agence météorologique ivoirienne Sodexam. Elle a placé dimanche ce district en vigilance rouge, le niveau d'alerte maximal. Ce quartier populaire de l'ouest d'Abidjan a déjà été endeuillé l'an dernier lors d'un éboulement dans lequel 6 personnes sont mortes. Pour éviter ces situations dramatiques, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement, Boaké Fofana, table sur des actions fortes.
Cette année, il y a 25 nouveaux sites à risque identifiés par les communes qu'on a dégagées et les travaux de curage vont continuer, même pendant la saison des pluies, pour nous assurer qu'on réduit les risques d'inondation et pour éviter les pertes en vies humaines. Après, on donne un délai aux gens pour partir, mais ceux qui ne partent pas au bout de ce délai n'ont pas d'autre choix que de recourir à la force.
Les constructions précaires dans des zones inondables, habitées par des populations pauvres, sont légion dans la métropole de 5,6 millions d'habitants. L'an dernier, 19 personnes sont mortes après de fortes précipitations et 18 ont perdu la vie en 2020 pendant la saison des pluies. Le gouvernement a engagé la construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales dans le district d'Abidjan. Aon Konon, directeur du suivi et exploitation à l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD.
Tous les ouvrages de drainage des eaux pluviales sont pris en compte dans cette opération. Aussi bien les grands comme les bassins tampons que vous voyez au carrefour de l'Indélier, comme les barrages secrétaires comme par exemple celui de Bonoumé, de la Palmeraie, derrière le 35e.
Le ministre Boaké Fofana en visite récemment sur les chantiers de 2 barrages et traiteurs d'eau dans la commune de Bergerville.
Nous avons pris des mesures d'urgence pour réduire les risques vraiment de façon durable.
La commune d'Abobo, également bénéficiaire des ouvrages de drainage. Lazeni Koulibaly, le coordonnateur du projet d'assainissement.
7 km pour pouvoir évacuer 84 000 m3 d'eau de pluie par heure. Et ce qui permet de mettre à l'abri en tout cas toutes les populations riveraines.
La Banque mondiale soutient la Côte d'Ivoire dans l'exécution d'ouvrages de drainage des eaux de pluie avec un financement de 2 barrages et traiteurs d'eau à hauteur de 155 milliards de francs CFA. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Sénégal, dégâts humains et matériels incalculables, plus d'une semaine après les violentes manifestations dans le pays. Rarement, ce pays n'a connu autant de violence et de destruction depuis son indépendance. Le bilan varie d'un camp à l'autre, mais c'est le désarroi pour les familles des victimes et les commerçants qui ont tout perdu. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
L'affaire dite Hadji Sarr, du nom de la masseuse qui a accusé l'opposant Ousmane Sonko de viol, a coûté la vie à plusieurs personnes, entre 16 et 30, selon les différents bilans. Des victimes qui, des fois, n'étaient pas directement impliquées dans les manifestations. El Hadj Mamoudou Sidibé Cissé était simplement parti faire sa prière à la mosquée, mais il n'est jamais revenu à la maison. Le témoignage de son frère, Abdoulaye Ba.
Ils sont frères, moi qui
quand les manifestations ont commencé à dégénérer avec des tirs de grenades lacrymogènes qui ont atteint la mosquée du quartier, j'ai demandé à tout le monde de regagner les maisons. Mais mon frère, El Hadj Mamoudou Sidibé Cissé, est parti dans la mosquée du quartier qui est à côté parce qu'il prie toujours à la mosquée, jamais dans la maison. Au retour, il a croisé des manifestants que la police poursuivait. Le premier tir des policiers a laissé un impact dans le mur et l'autre a malheureusement touché mon frère et il est décédé suite à son évacuation à l'hôpital.
À côté des nombreux décès enregistrés, d'énormes pertes matérielles sont notées sur des privés qui ont été agressés par des manifestants. Pape Ndaou a vu sa boutique partir en fumée.
Comme les Sénégalais vous donnez, mais
cette situation, je l'ai vécue de manière très difficile, comme tous les autres d'ailleurs. J'ai investi beaucoup d'argent et pour une histoire qui ne me regarde guère, j'ai perdu beaucoup de millions. Je ne pouvais pas prévoir qu'il y aurait des bandits parmi les manifestants, puisqu'ils étaient tous encagoulés. La paix n'a pas de prix et ces derniers jours nous l'ont montré. Malgré que ma boutique a été vandalisée, je prie pour que la paix revienne.
Mami Ngom est sidérée par ces événements. Elle a vu son investissement d'environ 3 millions de francs CFA saccagé, des efforts sur plusieurs années réduits à néant.
C'est vraiment un désastre. J'ai colmaté de gauche à droite pour pouvoir mettre en place ma boutique et aujourd'hui, il n'en reste rien. Tout est parti avec les manifestations. Ils ont pris tous mes tissus et des tissus de valeur, je vous dis. Manifester, ce n'est pas voler. Et c'est inadmissible. Je ne peux pas évaluer tout ce que j'ai perdu. Mais ça avoisine les 3 millions.
Sur le plan matériel, plusieurs centaines de milliards de dégâts sont notés entre les infrastructures publiques saccagées et les business privés vandalisés ou pillés. Panser les plaies et réparer ce qui a été détruit prendra certainement beaucoup de temps. Seydina Bagui pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Gabon, l'opération de révision des listes électorales a pris fin dimanche. Elle avait été prorogée pour permettre aux retardataires de se rattraper. Mission quasi impossible pour certains qui ont dû abandonner en raison de la forte affluence. Les Gabonais sont appelés aux urnes cette année pour choisir leur président, députés et conseillers municipaux. De Libreville, un reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Candidat à l'enrôlement, Arnold Sima piaffe d'impatience dans les rangs du centre d'inscription de la mairie du 1er arrondissement de Libreville.
On voit qu'on ne reçoit même pas, même maintenant dans la liste, on dit que c'est saturé. La liste qui est saturée, qui a peut-être 400 ou 500 noms. Mais là, nous, quand je me compte, même, nous ne sommes pas plus de 150
qui restent ici. Ouais.
Oui, mais je ne sais pas, les gens là.
Vous avez l'impression qu'on veut vous décourager?
Oui.
Une affluence quasi générale sur tous les sites dédiés à l'opération. Il est 17h ce dimanche. Oda Kamba ne sait même plus s'il sera reçu avant l'heure de fermeture du bureau municipal prévue à 21h.
Je ne sais pas comment ça s'organise là-bas. On essaie un peu de se renseigner. On nous dit que c'est 4 personnes qui essaient de gérer. Et même là, il y a beaucoup qui ont dû désister. Depuis 10 heures que je suis là, il y a ceux qui sont même là depuis 7 heures. On n'a pas encore été reçu. Depuis 10 heures, j'ai le numéro 62.
On vous distribue le numéro?
Oui, on nous distribue le numéro.
Face à cette longue attente, Léa Boukinda risque de craquer. Elle qui, au départ, se désintéresse de la politique. Les politiques vous énervent, les politiciens vous énervent?
Non, parce que j'ai dit juste que la politique ne m'intéresse pas du tout.
Contrairement aux frustrés de la politique comme Léa, Déborah est une étudiante décidée cette année à choisir ses futurs dirigeants. Elle vient de se faire enrôler.
En tant que citoyenne, j'aimerais bien faire mon devoir. En tant que citoyenne, voter, bien sûr, voter. Donc, c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à, bon, j'ai tenu bout jusqu'à la fin pour cet enrôlement.
La révision des listes électorales s'achève sur une grande mobilisation de l'électorat jeune. Larry est fier de brandir son récépissé d'inscription.
Je suis arrivé à peine il y a 12 minutes. J'ai fait 10 minutes, donc j'ai terminé la semaine.
Vous êtes un privilégié parce qu'il y en a qui attendent depuis 10 heures de temps.
Non, c'est pas ça en fait. L'enrôlement est différent du centre de changement de vote. Lorsque changer le vote, c'est plus rapide. Puis souvent, enrôler, c'est un protocole, donc c'est assez compliqué.
Selon le ministre gabonais de l'Intérieur, Lambert Noël Matta, il revient au gouvernement de transmettre la liste électorale revisée à l'organe en charge des élections. Une opération en amont des scrutins qui conditionne la publication par le CGE des dates de la présidentielle, des législatives et des municipales prévues cette année au Gabon. Libreville, Ismaël Obionzé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Cette année 2023, comme en 2022, les dirigeants de la Basketball Africa League ont fait la part belle à 12 pensionnaires de l'Académie de la NBA basée à Saliou au Sénégal. Répartis dans les 12 clubs qualifiés pour cette édition 2023 dans le cadre de ce programme appelé Ball Elevate, les jeunes basketteurs ont bien profité de cette opportunité pour montrer ce qu'ils ont appris à l'Académie. De retour de Kigali au Rwanda, où sont disputés les play-offs, Yakuba Ouedraogo et Cheikh Thiero reviennent sur la participation de ces jeunes basketteurs à la balle et leur rêve de jouer en NBA.
C'est l'une des révélations parmi les jeunes joueurs de la Ball Elevate qui ont pris part à cette troisième édition de la Basketball Africa League. Ruben Chinelou, pensionnaire de l'Académie de la NBA à Saliou au Sénégal, a été drafté par le stade malien de Bamako pour disputer cette édition 2023. Plein d'énergie, très présent dans la raquette, le jeune Nigérian de 19 ans, 2m03 et ses camarades ont pleinement profité de cette expérience.
Je suis très fier de mes coéquipiers du stade malien, des entraîneurs et de tout le reste. Les gars viennent et font ce qu'ils ont à faire en mettant de l'énergie. Ils sacrifient tout pour être sûr de tout donner sur le terrain. Je respecte cela et j'en suis fier. Je me souviendrai de cette expérience avec eux.
Ulrich Chomché est aussi pensionnaire de l'Académie de la NBA. Il a joué avec REG, Rwanda Energy Group.
On tient à remercier ceux qui ont fait en sorte que la balle soit mise en place en Afrique. Et c'est une bonne chose pour nous, les jeunes Africains, de pouvoir venir montrer de quoi on est capable.
Comme Chinelou et Chomché, au total, 12 jeunes pensionnaires de l'Académie de la NBA basée à Sali ont été répartis dans les 12 clubs qui ont pris part à la balle cette année. Ce programme, lancé l'année dernière et appelé Ball Elevate, met en valeur les qualités de ces jeunes joueurs. Ruben Chinelou, pensionnaire de l'Académie de la NBA.
There's a lot of talent.
Il y a beaucoup de talents en Afrique qui meurent parce qu'il n'y a pas de visualisation, pas d'installation. C'est pourquoi le fait d'amener la NBA en Afrique rend les choses possibles pour de nombreux joueurs des différentes régions d'Afrique. Il y a le Congo, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Soudan du Sud. Le fait de pouvoir participer à ces programmes aide beaucoup à mettre en valeur les joueurs africains.
Avec le stade malien de Bamako, Chinelou a disputé 8 matchs sur 8, finissant à la 3e place. Pour la suite de sa carrière, il va rejoindre le Washington State aux États-Unis la saison prochaine. Son équipier à l'académie, Draman Ladji Kamara, champion de la balle avec Al Ahly, a signé à l'Université DePaul à Chicago dans l'Illinois. D'origine malienne, ce tireur à 3 points doté d'une grande confiance en lui peut savourer son titre avant sa rentrée prochaine.
Je suis très heureux d'avoir pu gagner cette compétition avec cette équipe, une équipe avec beaucoup d'expérience. J'ai pu beaucoup apprendre et vraiment finir avec une victoire. Je suis vraiment très heureux. J'espère que c'est le premier et peut-être pas le dernier trophée dans cette ligue parce que c'est une ligue avec un très gros potentiel et j'espère revenir dans quelques années.
Revenir dans quelques années car tous rêvent de la NBA d'abord. C'est aussi le cas du Camerounais Ulrich Chomché qui a atteint les quarts de finale de la balle avec Rwanda Energy Group. Pour lui, au-delà du sport, l'académie leur apprend à vivre.
L'académie, c'est vraiment très dur. C'est que tu ne peux pas survivre là-bas, c'est pas une place pour toi. Hein, parce que c'est pas pour les faibles. on nous apprend pas uniquement à jouer au basket, on nous apprend aussi à être des hommes et à comment gérer la vie sociale et tout. C'est pas uniquement le basket. Et on étudie aussi.
Ces talents africains réunis à la NBA Academy à Sali ont battu la team Ferwaba, une formation rwandaise 67-57, dans un match d'exhibition qui a tenu toutes ses promesses à la Kigali Arena.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seludia, à la mise en onde Georges Léonard Sagnot, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.